L'accent des autres, c'est votre rendez-vous avec l'essentiel de l'actualité francophone cette semaine. Bienvenue, nous sommes ensemble pour une douzaine de minutes avec France Inter, Radio-Canada, RFI, la RTBF et la Radio-Télévision Suisse. Et on va précisément débuter en Suisse cette semaine avec vous, Pierre Anchoffat. Et une question, les autorités étaient-elles au courant? C'est la question qui agite le monde politique après les révélations d'une énorme affaire d'espionnage.
La société helvétique Crypto a en effet vendu des appareils de chiffrement manipulés, ce qui a permis aux services secrets américains et allemands d'écouter pendant des années les conversations secrètes de leurs ennemis et de leurs alliés.
En France, Éric Delvaux, le gouvernement Macron décide de prendre à bras-le-corps la situation des personnes handicapées.
Pour que les handicapés deviennent des citoyens à part entière, a dit le chef de l'État, que ce soit à l'école, au travail ou bien chez soi.
Une page de la longue histoire de la multinationale Bombardier s'est tournée cette semaine au Canada, Benoît Audet.
Oui, la compagnie a décidé d'abandonner les parts qu'elle détenait toujours dans l'appareil A220.
Faut-il parler avec les terroristes? Le débat est posé au Mali, Amélie Tullet, après les récentes déclarations du président.
Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé lui-même dans une interview qu'il explorait la piste du dialogue avec des chefs djihadistes.
Enfin, en Belgique, Sophie Brems, le roi Philippe s'est exprimé cette semaine à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Les Nations Unies qui doivent faire beaucoup mieux pour protéger les enfants dans les conflits armés, c'est notamment ce qu'a déclaré le roi des Belges.
On va donc débuter cette semaine avec cette affaire d'espionnage à large échelle. Donc, Pierre-Anne, la CIA elle-même parle de coup du siècle en matière de renseignement dans un rapport qui remonte à 2004. Les services secrets américains ont tiré parti d'une collaboration avec l'entreprise suisse Crypto.
Collaboration, voire plus, puisque conjointement avec les services allemands, les États-Unis ont acheté des parts et pris le contrôle de cette société, leader mondial du chiffrement. C'était il y a 50 ans, un investissement que les USA n'ont abandonné qu'en 2018. Fort de la neutralité helvétique, Crypto a pu vendre ses machines de cryptage à plus d'une centaine de pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Inde, le Pakistan ou encore les juntes militaires d'Amérique latine.
Oui, sauf que, Pierre-Anne, ces appareils étaient manipulés.
Exactement, pour permettre aux Allemands et aux Américains de surveiller tout le monde, selon les documents de la CIA révélés par le Washington Post et la télévision suisse-alémanique, ces écoutes ont joué un rôle important lors de la guerre des Malouines et de la crise des otages à l'ambassade américaine de Téhéran.
Oui, et ces révélations font évidemment beaucoup de bruit en Suisse.
Oui, car ces documents mentionnent également le nom de Caspar Willigert, ministre en charge de la Défense à l'époque. Celui-ci a d'ores et déjà nié avoir été au courant. Mais c'est la grande question. Que savaient les autorités de ces agissements? Une commission parlementaire a ouvert une enquête. Philippe Bauer en est membre. Il attend des résultats rapides.
La procédure qui va régir notre enquête nous donne un certain nombre de droits. Nous commencerons très vite de requérir des documents, des archives, pour savoir ce que les uns et les autres savaient de ces relations qui ont pu exister entre notre pays, certaines autorités et éventuellement des services de renseignement étrangers.
Le gouvernement a de son côté mandaté un juge extraordinaire pour faire la lumière. S'il s'avère que les renseignements helvétiques étaient impliqués, pire que le Conseil fédéral savait, eh bien ce serait évidemment un coup très dur à la neutralité suisse et surtout à sa crédibilité sur le terrain diplomatique.
L'accent des autres.
Direction la France, Emmanuel Macron, le président vient d'annoncer une série de mesures en faveur des personnes handicapées. Ce plan, Eric, il était très attendu par différentes associations en France.
Oui, car les inégalités demeurent en France pour les 12 millions de personnes handicapées. Malgré une première loi, il y a 15 ans, pour l'égalité des chances, Emmanuel Macron annonce donc une série de mesures, notamment à l'école, pour qu'aucun enfant handicapé ne soit laissé sans solution de scolarisation dès la rentrée prochaine. Il faut dire qu'il reste en France trop d'enfants en attente d'un accompagnant à l'école. Emmanuel Macron veut donc créer 11 500 postes d'accompagnants supplémentaires d'ici à 2022.
Je ne veux plus de personnes vivant en situation de handicap qui soient sans solution. Et donc je créerai tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école.
Alors, outre la scolarisation, d'autres mesures verront le jour, comme un numéro de téléphone unique qui va donc remplacer tous les numéros administratifs éparpillés qui renvoient les handicapés de guichets en guichets. Des places supplémentaires également dans les établissements de soins. Elles vont être créées un peu partout en France. Enfin, pour l'emploi, le gouvernement va favoriser des filières d'apprentissage. Longtemps, les familles de personnes handicapées se sont senties délaissées en France et elles l'ont fait encore savoir. Cette semaine, donc, en manifestant un peu partout en France, pour que les pouvoirs publics soient très précis dans les nouvelles mesures, car c'est souvent dans le détail que le bât blesse. Écoutez ce qu'en disait sur France Inter cette maman d'un enfant autiste.
Mon fils n'est pas seulement autiste, il a aussi ce qu'on appelle un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est-à-dire qu'il va abîmer aller, deux pantalons par mois, une paire de chaussures tous les mois, ça incombe en fait au handicap. Et ça, c'est pas forcément pris en compte non plus.
Alors au final, les mesures d'Emmanuel Macron pour le handicap ont été plutôt bien accueillies par les associations. Reste une grande inconnue, le financement de ces mesures qui n'est toujours pas précisé.
Bombardier se désengage. La multinationale canadienne décide de vendre les parts qu'elle détenait encore dans l'Airbus A220 et elle les vend à Airbus précisément et au gouvernement du Québec. L'avion avait été développé et mis sur le marché par Bombardier avant qu'elle ne vende une partie majoritaire à Airbus déjà en 2017. Et aujourd'hui donc, Benoît, c'est la fin de l'aventure de Bombardier dans le monde de l'aviation commerciale.
Oui, c'est une fin qui était anticipée depuis longtemps. Bombardier engloutit des milliards de dollars dans le programme de l'Airbus A220 qui s'appelait à l'origine la C-Series. Le premier vol de l'appareil a d'abord eu lieu en 2013 et en 2017, à bout de ressources, Bombardier s'est résolu à faire appel à Airbus comme partenaire. C'était donc un peu la suite logique des choses.
Alors, question, comment le gouvernement du Québec a-t-il réagi, Benoît, à cette annonce?
Pour le moment, Québec se montre optimiste. L'industrie aérospatiale est très importante pour la région de Montréal. L'usine de Mirabel qui assemble les appareils A220 pourrait voir une augmentation de sa production, mais le gouvernement reconnaît qu'il n'y a aucune garantie écrite quant au maintien des emplois existants.
Oui, ce n'est donc pas forcément le grand optimisme. Et Benoît, ça se ressent d'ailleurs depuis quelques années chez Bombardier.
Oui, la compagnie a connu une croissance vertigineuse. À l'origine, elle fabriquait des motoneiges et elle s'est diversifiée par la suite dans l'aviation. Bombardier a fabriqué pendant longtemps les fameux canadairs utilisés pour combattre les incendies de forêt. L'entreprise est aussi présente dans le transport ferroviaire et fabrique des rames de métro et des tramways que l'on peut utiliser dans plusieurs villes du monde. Mais elle s'est retirée de plusieurs secteurs depuis plusieurs années et elle n'est plus que l'ombre d'elle-même maintenant.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Doit-on parler avec les terroristes? La question se pose donc, je vous le disais, au Mali. Le président malien a pour la première fois confirmé lui-même que des efforts étaient faits en son nom pour tenter d'engager des discussions, Amélie, avec deux chefs de groupe djihadistes.
Oui, dans un entretien accordé à RFI et France 24, Ibrahim Boubacar Keïta confirme et justifie son choix de mandater l'ancien président Diokounda Traoré pour tenter de nouer des contacts avec deux chefs de groupes terroristes.
Parce que le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel. Et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées.
La voie du dialogue, donc, avec Iyad Agrali et Amadou Koufa. À Bamako, les déclarations du président malien ont fait réagir. Dans le camp présidentiel, on salue la démarche. Maître Baber Gano du parti RPM assure que certains sujets, toutefois, ne seront pas négociables.
Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. La partition du Mali, la laïcité, le principe républicain. Ça, ce sont des lignes rouges que le président n'accepterait jamais à franchir.
Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, lui, se dit perplexe sur les chances de réussite d'un tel dialogue. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, quant à lui, souligne que les chefs visés ne sont plus les plus influents.
Quand vous regardez le terrain aujourd'hui, les groupes terroristes qui semblent être les plus forts ne sont pas forcément ceux avec lesquels on veut discuter. Nous, on semble focaliser sur Iyad et Koufa qui sont des Maliens. Mais sur le terrain, ce n'est plus Iyad et Koufa qui sont les seuls acteurs ou les patrons.
En effet, l'État islamique au Grand Sahara, par exemple, qui est perçu comme la menace montante au Sahel, ne fait pas partie des interlocuteurs envisagés.
Enfin, nous allons nous quitter à New York avec ce moment rare cette semaine aux Nations Unies. Sophie, un roi s'est exprimé devant le Conseil de sécurité et c'était le roi des Belges.
Oui, mais ce n'est pas une première, hein, puisqu'en 1990, déjà l'oncle du roi Philippe, le roi Baudouin, avait pris la parole à cette même tribune à l'occasion de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant. 30 ans plus tard, la protection des enfants reste donc une priorité constante de la politique étrangère de la Belgique. C'est ce qu'a notamment déclaré l'actuel roi des Belges. Car aujourd'hui encore, ce chiffre, un enfant sur cinq dans le monde subit l'impact négatif d'un conflit armé.
Dans plusieurs négociations de paix, la protection des enfants a reçu une réelle attention. Nous pouvons nous en féliciter. Mais les processus inclusifs demeurent des exceptions. Trop souvent, le sort des enfants reste négligé. Leur voix, leurs droits, leurs besoins ne sont guère pris en compte. Nous devons faire beaucoup mieux.
La Belgique est d'ailleurs directement concernée par cette problématique des enfants dans les conflits armés, puisque des dizaines d'enfants belges se trouvent toujours sur le sol syrien et doivent être rapatriés. Alors symboliquement, la prise de parole d'un roi à la tribune du Conseil de sécurité reste bien évidemment un moment rare. Elle montre l'importance du thème de la protection de l'enfance pour la Belgique, mais aussi l'importance que le pays donne à sa présidence, car depuis le début de ce mois de février, c'est la Belgique qui préside le Conseil de sécurité.
Merci Sophie et merci à tous. L'accent des autres se referme ici avec la radio-télévision suisse, RFI, France Inter, Radio-Canada et la RTBF. C'était l'essentiel de l'actualité francophone de ces derniers jours. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine à la même heure.